Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Une grande exposition vient de se terminer à la Tate Britain de Londres. Un long métrage est en ce moment sur les écrans en France. Le peintre William Turner est à l'honneur en ce moment. Franck Ferrand a vu le film. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai vu le film, J'ai pas vu l'expo. Hélas, le grand comédien britannique Timothy Spall, dans ce film que nous avons vu avec une partie de l'équipe là dimanche dernier, il campe un Turner, disons, passablement renfrogné, grognant même parfois un peu à la manière d'un sanglier. Alors est-ce qu'il était comme ça, réellement, le peintre hyper délicat de tant de marines en demi-teinte? Peut-être, après tout, je poserai la question dans un instant à mon invité Serge Lega. Évidemment, Serge Lega, incontournable dès qu'il est question de peinture.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jean-Baptiste sur les origines du code de la route.
Je vous soupçonne d'essayer de me faire passer un message à travers cette question. Bref, l'heure est, l'heure est à la lumière, aux couleurs, aux splendeurs inspirées de William Turner.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Sur le point d'expirer, John Maynard William Turner aurait prononcé, comme une révélation dernière, la phrase suivante qui a été souvent citée « The sun is God », « Le soleil, c'est Dieu ». Parfaite synthèse d'une vie entière dédiée à la lumière et tournée vers l'astre solaire. Je dirais même peut-être tournant autour de l'astre solaire. Un astre qui, sur ses toiles, se fait tantôt rose tendre au petit matin, tantôt disque écarlate dans l'embrasement du couchant, quand il n'est pas voilé, brouillé, mouillé. Si l'œil sans pareil de Turner se complaît dans les brumes et dans les crépuscules, je me dis que c'est peut-être précisément pour nous permettre d'observer le soleil en face, à travers le prisme d'une atmosphère épaisse et vaporeuse, contempler le soleil, contempler Dieu, face à face, et sans ciller. C'est une chose que de peindre une architecture, ou un paysage, ou un animal, voire un personnage. C'en est une autre que de saisir l'air ambiant, de l'attraper, de le rendre, de donner à voir un phénomène lumineux par la seule magie d'une touche de peinture, de faire venir vibrer depuis le fond, depuis la trame de la toile, la source de lumière, comme si la toile elle-même éclairait. C'est pour en avoir détenu le secret que William Turner a de son vivant même été regardé comme un des plus grands maîtres de la peinture, particulièrement renommé pour ses paysages et pour ses marines. Il accomplit l'exploit d'être à la fois un des grands figuratifs de son siècle et le père spirituel de l'abstraction en peinture, d'avoir maîtrisé l'académisme comme personne, et nous verrons jusqu'où, tout en préfigurant clairement l'impressionnisme. Un maître, Turner, un monstre, un géant, tempête, incendie, volcan, montagne, tourbillon, tous les éléments, tous les accidents sont à son service. Il faut l'imaginer triturant lui-même à pleine main les pigments qu'il tire en poudre de ses flacons, en pâte de ses sachets, avant de les appliquer sur la toile, du bout des doigts s'il le faut. Et là, on songe forcément au sfumato de Léonard de Vinci. Il paraît que Mr. Turner se serait même laissé pousser un ongle afin de pouvoir gratter la couleur qui avait été fraîchement déposée sur la toile. Turner a écrit le grand critique d'art John Ruskin, et nous verrons le rôle qu'a pu jouer Ruskin dans cette carrière et dans la notoriété qui a été celle de Turner. Turner avait trouvé une liberté d'espace, une brillance de la lumière, une variété de couleurs, une simplicité des formes en général. Pour le reste, on le disait, et c'est ainsi donc que le montre le film de Mike Lee, on le disait bougon, grognon, un peu hirsute, un ours en somme, né pour autant que l'on sache le même jour, en tout cas le même jour de l'année, que Shakespeare, un 23 avril, bien plus tard évidemment, en 1775. Et si Turner, me demandais-je en préparant cette émission, et si Turner était en quelque sorte le Shakespeare de la peinture ? Alors où est-il né ? À Londres ? Dans le Kent ? Dans le Devon ? Franchement, personne n'en sait rien. Il est probablement né à Covent Garden, où son père tenait boutique de barbier perruquier. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1775. Vous voyez, en France, c'est le tout début du règne de Louis XVI. Tous les gens un peu bien portent une perruque. Et même ceux qui sont moins bien, d'ailleurs, on porte beaucoup de perruques. Donc les barbiers perruquiers ont un rôle essentiel dans cette société. Il faut imaginer le tout petit Turner, le bébé Turner, si je puis dire, dans l'agitation marchande de ce qui est à l'époque la capitale du commerce, cette fin de XVIIIe siècle. Son père est l'héritier de toute une lignée d'artisans. Ce sont des gens très modestes, évidemment, mais avec ce sens du travail bien fait, cet amour d'une certaine conduite, si je puis dire, qu'on retrouvera dans la personnalité du père, merveilleusement campé dans le film, d'ailleurs, puisqu'on a l'impression dans ce film que ce père est un peu la quintessence de tous les pères. Je trouve ce personnage magnifique. Et puis, la mère, elle, Mary Marshall, est la descendante de toute une famille de bouchers, au moins depuis le XVIIe siècle. Là, des gens un peu plus chics, parce que les bouchers, à l'époque, c'était mieux, si je puis dire. C'était des propriétaires terriens, bien souvent, parce qu'il fallait faire paître les bêtes qu'on allait abattre par ailleurs dans l'arrière-boutique. Hein, c'était comme ça que ça se passait, avec beaucoup d'alliances dans le clergé, etc. La vie de famille, bah, c'est la vie de petits artisans londoniens de l'époque, hein, vous imaginez. Une sœur cadette de William va mourir à l'âge de 4 ans. On est là en 1783. Vous voyez qu'il est encore tout jeune et c'est un événement bien sûr qui va beaucoup marquer la famille, qui va sans doute conduire ou accentuer en tout cas la dépression de la mère, qui fera plusieurs séjours dans ce qu'on appelait les asiles ou les petites maisons à l'époque, ce que nous appellerions nous des hôpitaux psychiatriques. Elle finira par être intégrée au département des incurables du Bethlehem Hospital en 1801. Elle meurt en avril 1804. On n'a pas de portrait. Quand je dis on n'a pas, on a juste une petite esquisse que le tout jeune Turner avait fait de sa mère, de profil, avec un regard terrible. Elle fait pas envie, cette dame, franchement. Et d'une manière générale, on ne peut pas dire que Turner ait beaucoup peint sa famille. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a cependant connu, malgré cette dureté des temps, une enfance assez chaleureuse. Il a 10 ans lorsque, la maladie de sa mère s'aggravant, il va quitter le foyer paternel pour aller vivre chez son oncle maternel. Ça, c'est fondamental. Il arrive chez Joseph à Brentford dans le Middlesex. Et là, il commence tout de suite à dessiner. Est-ce qu'il n'avait pas dessiné déjà un peu avant ? C'est probable. On est en présence de ces espèces de génies qui, vous savez, on va pas revenir sur certaines grandes anecdotes du passé, et notamment je pensais à la Renaissance italienne, mais ces peintres extraordinaires qui, dès le plus jeune âge, savent qu'ils ont quelque chose à transmettre et qui ne peuvent pas s'empêcher, dès qu'ils ont un morceau de charbon sous la main, de dessiner, de croquer sur le premier mur venu, des scènes et des paysages que nous serions bien heureux aujourd'hui de pouvoir contempler.
Un extrait du premier mouvement de la 7e symphonie de Beethoven par Herbert von Karajan. Retour à la jeunesse du peintre William Turner avec vous, Franck Ferrand.
D'emblée, Turner s'est intéressé au paysage. Il voyage déjà beaucoup, il a pris l'habitude de parcourir la campagne avec son carnet de croquis. Ce carnet qu'on voit beaucoup dans le film d'ailleurs, qu'il emporte toujours avec lui, qui est très présent en quelque sorte, qui est le prolongement même de sa mémoire sans doute, ou de cette plaque sensible qu'est son œil tellement acéré. Il fait jusqu'à 40-45 kilomètres par jour. Hein. C'est un grand marcheur. On pourrait presque parler d'un arpenteur et d'autant plus du reste qu'il va très vite vite travailler avec un géographe, un graveur géographe, un topographe, enfin bref, des gens qui, d'une manière générale, ont un lien direct avec le paysage. Je pense que sans ces collaborations successives à Covent Garden dès 1786 chez le graveur John Raphael Smith, un tout petit peu après chez l'architecte Thomas Hardwick, et puis donc, bien sûr et surtout chez Thomas Melton Jr., qui est le véritable maître de Turner et qui lui est un artiste topographe, probablement Turner n'aurait pas été l'artiste de l'espace que nous connaissons. Vous savez, on le voit à mesure que progresse une œuvre, au demeurant très précoce, on le voit maîtriser, alors la perspective, ça, tout de suite, évidemment, avec une incroyable efficacité, la densité. C'est-à-dire qu'il est capable de vous peindre différemment le gros mur de moellons et le toit de chaume, vous voyez. Et puis, au-delà de la densité, la profondeur qu'il sait donner, parfois juste par un petit trait, ou même mieux encore, et c'est ce que j'admire moi en ce qui me concerne tellement chez Turner, par l'absence de trait, par certains moments, il donne une espèce de... Vous avez l'impression que vous pouvez mettre la main dans la toile et qu'elle va s'enfoncer comme ça dans la profondeur. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, il rencontre justement chez Melton le fameux Thomas Gertin, je dis le fameux parce que c'est le grand ami de sa jeunesse, et alors il travaille à quatre mains, comme on le faisait assez régulièrement dans les ateliers de l'époque du reste. C'est-à-dire que Gertin va travailler sur tout ce qui est le dessin, si vous voulez, et Turner, lui, passe tout ça à l'aquarelle, avec déjà, oh là là, bien plus qu'un sens des couleurs. Certes, Turner est un coloriste, quand on a dit ça, c'est une grande évidence, mais au-delà de la couleur, il y a la façon de l'appliquer. Il y a cette manière tellement à lui d'aller caresser la feuille de papier pour donner le sentiment quasiment que le pigment ne s'y est même pas déposé, qu'il est presque comme en suspension à la surface, une sorte de glacis qui ne dirait pas son nom. Voilà ce que Turner, très tôt, apprend. Il se trouve que l'autre, donc l'alter ego, si je puis dire, Thomas, va mourir à l'âge de 27 ans. « Had Tom Gertin lived, dira plus tard Turner, I should have starved. » C'est-à-dire, s'il avait vécu, moi, je serais mort de faim, tellement l'autre était doué, veut-il dire. Vous voyez le bel hommage. Vous me direz, il n'est pas né dans le bon milieu. C'est vrai que ce petit perruquier barbier n'est peut-être pas le mieux à même d'offrir à Turner les stages, comme nous dirions aujourd'hui, les écoles nécessaires à l'épanouissement de son talent. Mais ce qui est vraiment marquant chez ce bonhomme, chez le père de Turner, c'est qu'il est très fier de son fils. On a vu tellement de ces artistes rejetés par leur famille, repoussés par des pères qui trouvaient que la peinture n'était pas un métier sérieux, etc., qu'il faut souligner à quel point les encouragements de ce père ont dû être essentiels. Ils ont attisé, si j'ose dire, chez Turner, le grand incendie que nous allons bientôt voir. Et l'on voit le père, tout content, tout fier, exposé dans sa vitrine, chez lui, dans sa petite boutique, il expose les croquis de son fils, essentiellement à l'époque des vues topographiques de Londres et de la côte du Kent. Les clients commencent à en parler. Et on en parle tellement qu'un grand artiste de l'époque, John Francis Rigaud, qui est d'origine française évidemment, qui appartient à la même dynastie que le célèbre peintre de portraits Rigaud à Versailles, ce John Francis Rigaud entend parler du gamin, il veut le voir, il est fasciné par son talent, par son incroyable précision de plume, de traits et d'aquarelle, et il va l'encourager à devenir élève de la Royal Academy. Qu'est-ce que c'est que la Royal Academy? Ah ben c'est la grande institution de référence en matière d'art graphique à l'époque. Elle avait été fondée pas très longtemps auparavant, en 1768, avec beaucoup de retard sur l'Académie des Beaux-Arts de France. France, hein, du reste, mais en 1768, par le roi George III, elle était très inspirée évidemment par sa collègue française, mais moins rigide, plus ouverte. Il y avait quelque chose qui était à mi-chemin, et c'est très londonien ça, à mi-chemin dans cette académie royale britannique, entre les académies telles qu'on peut les concevoir, et puis en même temps presque un côté galerie, un côté salon, si l'on peut dire. Et ça, évidemment, ça va permettre à Turner de fréquenter tout de suite un certain nombre de ses pairs, et puisqu'il est une véritable éponge, de s'enrichir très vite du talent d'autrui. À l'époque, il vit dans Somerset House depuis 1771. Il s'installera ensuite carrément sur Pall Mall, hein, vraiment dans les quartiers hyper chics, puis carrément même à Trafalgar Square. Il faut dire que Turner n'est pas un artiste maudit et que nous allons voir qu'il vendra et vendra bien pendant toute sa vie. Il y a même cette scène qu'on voit dans le film assez extraordinaire où un très riche mécène lui propose carrément 100 000 livres sterling, une somme gigantesquissime pour acheter l'étoile qui reste chez lui. Et Turner dit non, non, je veux les garder car je les offrirai un jour à la nation britannique, dit-il. La pièce la plus importante, évidemment, de ce domicile, c'est tout en haut de l'immeuble. On y entre par un escalier en colimaçon. Ça fait 16 mètres de long sur 13 mètres de large, 10 mètres de hauteur. La plus belle galerie construite à ce jour, nous dit Giuseppe Baretti à propos de cette Académie royale britannique. Et de nombreuses toiles sont exposées chaque année. Dites-vous que, par exemple, en 1781, il y a 547 toiles qui sont exposées. Alors, quand je dis exposées à la manière de l'époque, c'est-à-dire que c'était le grand touche-touche. Vous savez, on mettait les toiles un peu comme ça venait, comme elles se présentaient, de sorte qu'on ne voit quasiment plus la cimaise. Hein. Tout était couvert, littéralement, jusqu'au plafond, depuis le balambris jusqu'au plafond. Et les toiles et les dessins, etc., de Turner vont bientôt rejoindre ceux de ses confrères sur les cimaises de la Royal Academy. Il est admis au cours le 11 décembre 1789, ce qui veut dire, le calcul est vite fait, qu'il a à peine 15 ans, même pas 14 et quelques. Et il a dû quand même subir les épreuves de dessin d'après moulage, hein, des moulages antiques. À l'époque, c'était très académique, ça, pour le coup, bien entendu. Il est chargé pour un mandat à l'Académie de tirer moulage et sculpture classique. Donc ça, évidemment, ça va lui permettre de prouver sa très grande connaissance des formes classiques. C'est très important. C'est la simplicité dont parlait Ruskin tout à l'heure. Elle vient peut-être de là, d'une certaine manière. 4 ans d'enseignement à l'Académie. Et il y a à la fois chez Turner, et ça c'est encore un aspect incernable, une incroyable rapidité d'exécution et en même temps une lenteur de méditation phénoménale, une opiniâtreté, un soin, une envie d'apprendre qui évidemment sont particulièrement propices au développement d'un jeune talent. Il exposera tous les ans désormais jusqu'à sa mort, sauf à 3 reprises. Je dis ça si nous avons des auditeurs britanniques qui sont, je sais, très pointus sur les détails. Donc Turner n'a pas exposé à l'Académie en 1821, en 1824. Mais bon, enfin, vous avouerez que c'est, il n'y aura pas de tableau de lui non plus en 1848. Mais en tout, il aura quand même exposé quelque 259 toiles. Alors, je ne vais pas vous citer tous ses professeurs. Ils sont tous plus brillants les uns que les autres. Il y a Joshua Reynolds, évidemment. Il y a Thomas Gainsborough, il y a tous les grands peintres anglais de l'époque. D'ailleurs, là, on peut dire que le goût personnel de Turner va vers Reynolds, ce qui ne surprendra pas ceux qui connaissent bien les deux peintres. Et en 1790, il va assister au dernier discours que donne Sir Joshua Reynolds, un discours très célèbre, hein, puisqu'il est un peu fondateur de l'histoire des arts, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Mais il est là, Turner est là dans le public, il note tout, il est tellement pétri d'admiration pour ce maître qu'il exprime à l'époque le souhait d'être carrément enterré à ses côtés lorsqu'il sera inhumé en grande pompe dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul de Londres.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à la vie du tout jeune William Turner.
Alors Turner, je vous l'ai dit, est à l'Académie depuis 1789. Ce que je ne vous ai pas dit, et c'est fondamental, c'est qu'on est dans cette époque de l'extrême fin du 19e siècle où l'on est à la recherche d'un art total. C'est vrai dans le monde de la musique, de l'opéra, du théâtre. C'est vrai, évidemment, dans celui des arts plastiques et de la littérature. On essaie de faire se répondre les uns et les autres, si vous voulez. Et Turner va prendre assez vite l'habitude à son tour, comme l'ont fait un certain nombre de ses prédécesseurs, et je pense à Reynolds, bien entendu. Il va prendre l'habitude d'associer tableaux et citations littéraires. La première fois qu'il accompagne un tableau de verre, c'est une très belle toile que j'ai là sous les yeux. Enfin, une reproduction, je vous rassure, qui représente Dumbarton Castle. Combien terrible est le silence de cette terre désolée où la nature soulève ses montagnes vers le ciel. Solitude majestueuse, voyez la tour où Owen, longtemps emprisonné, soupira en vain après sa liberté en se tordant les mains de désespoir, dit-il. Et le désespoir, croyez-moi, il est sur cette toile, avec cette contours noirs d'encre qui peut faire penser à certains des dessins romantiques très inspirés que Victor Hugo, beaucoup plus tard, fera lui-même. Vous savez, cette espèce de... On est là, on a entendu quelques notes, je l'ai fait évidemment exprès tout à l'heure, de quelques notes de Beethoven. On est dans ce romantisme naissant qui est en train de sourdre des profondeurs de la vieille terre d'Europe et qui va bientôt, littéralement, éblouir le monde. Parmi les noms de grands auteurs que l'on trouve dans les toiles de Turner, ou en tout cas dans ses catalogues, Virgile bien entendu, Pope, Milton, mais aussi Gray et Byron et Scott, etc. Quand je vous parle de romantisme, vous voyez. En 1812, voilà ce qu'écrit Turner. Peinture et poésie, dit-il. Je le fais sans les grognements, moi. Peinture et poésie coulant mutuellement de la même source, en comparant constamment les allusions du poète avec les formes naturelles de l'une et appliquant les formes trouvées dans les natures à l'autre, se mêlent en courants qui améliorent réciproquement les reflets et rehaussent les beautés de l'autre comme des miroirs. Comme si, en quelque sorte, il allait chercher dans la poésie de quoi alimenter la peinture et dans la peinture de quoi illustrer plus profondément encore la poésie. Ça peut faire penser aussi à la démarche d'un Berlioz, à celle d'un Delacroix dans des registres différents. Plus tard de Wagner, évidemment. Turner, vous l'avez compris aussi, est un voyageur dans l'âme. Son premier voyage d'été, c'est en 1791. Le voilà parti se promener dans tout le sud-ouest de l'Angleterre, à Bristol notamment, puis au Pays de Galles, dans le Kent, le Sussex, les Midlands, l'île de Wight, le Lake District, etc. Il dessine énormément d'après nature. Et quand je dis d'après nature, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que c'est au-delà du paysage lui-même, on a l'impression que ce sont les ciels qu'il vient chercher, ce sont les luminosités particulières, c'est l'espèce de vapeur des marais qui permettra de brouiller un peu mieux les soleils, justement. Toujours cette espèce de volonté de s'approcher de cela. Alors, on est encore dans les débuts. Ça prendra une toute autre dimension lorsque la maturité aura permis à Turner de la pleine possession de ses moyens. Mais enfin, ça existe déjà, il y a déjà cette tension, cette recherche. Et alors, dès la signature du traité d'Amiens, la paix avec la France en 1802, hop, Turner traverse la Manche, le voilà sur le continent, il va se promener pas mal en France, en Suisse, il ira jusque sur les bords du Rhin, toujours cette espèce d'accès romantique. Il est parti d'ailleurs pour ce voyage avec son ami Gertin, dont je parlais tout à l'heure. Et ils ne vont pas manquer, évidemment, de travailler à quatre mains. Il découvre le sommet, sans mauvais jeu de mots pour un romantique, c'est-à-dire les Alpes, bien sûr, ces sommets montagneux extraordinaires, tellement propices et tellement aimés des aquarellistes, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'aller visiter des collections, comme on peut le faire à l'époque. C'est son grand tour à lui, si je puis dire, même si, évidemment, les recommandations dont il jouit ne sont pas celles de la plupart de ses confrères. Toujours est-il que Turner va voyager beaucoup, qu'il va se nourrir beaucoup, et croyez-moi, il est très généreux, il restituera bientôt tout cela.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du peintre William Turner, avec votre invité Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Alors bonjour Serge.
Bonjour Franck.
Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que M. Turner ouvrait en 1804 sa propre galerie. C'est pas une petite galerie, hein. Elle fait 20 mètres de long sur 7 mètres de large. On peut y exposer très confortablement une vingtaine, même une petite trentaine de tableaux, avec un éclairage zénital comme on pouvait en trouver dans les demeures princières de l'époque. M. Turner soigne sa clientèle.
Oui, et on est très loin, c'est ce que vous évoquiez Franck, de la notion d'artiste maudit. On est vraiment chez quelqu'un, d'abord qui est un petit prodige, puisque encore une fois, il arrive à intégrer la Royal Academy comme élève à l'âge de 14 ans, ce qui est quand même un tour de force. Et puis par la suite, il aura une vraie reconnaissance de la part du public, une reconnaissance parfois plus difficile de la part de la critique, mais il y a des soutiens et ça explique aussi ce que sera son évolution, entre autres, dans les différents logements qu'il aura à Londres.
Un de ses amis, le fils du révérend Tremer, décrit cette fameuse galerie, hein, dit-il, ce lieu entouré de mystères de son vivant, était l'objet d'une vive spéculation, car n'y était admis évidemment que ceux dont on estimait qu'ils pouvaient devenir des clients utiles,
potentiels.
Oui. Que n'auraient donné ses confrères, dit-il, pour en forcer l'entrée alors que Turner était à l'apogée de sa gloire. Souvent, lorsqu'on m'introduisait dans cette galerie, je le voyais, lui, émerger de ce recoin caché. Ses gants et son foulard reposaient sur une table ronde, dont le milieu était occupé par une boîte surélevée, ornée d'un disque central et garnie de compartiments latéraux, ingénieux dispositif dont je n'avais jamais vu l'équivalent. Au centre se trouvaient ses couleurs, principal objet de ma curiosité. Les couleurs n'étaient pas broyées sur une ardoise, mais étendues d'huile crue à même la palette, opération quotidienne sur laquelle il se montrait très exigeant. Ses brosses, rondes ou plates à soie de porc, étaient des plus ordinaires. On a dit qu'il employait des pinceaux très courts, ce qui était peut-être vrai pour l'aquarelle, mais je remarquais un pinceau à très long manche avec lequel je suis certain qu'il a fini ses derniers tableaux. Pinceau à très long manche qui lui permettait, et l'on va y venir tout à l'heure, Serge évidemment, qui lui permettait de peaufiner cet aspect quasi impressionniste de ses dernières toiles. Il faut être loin pour voir l'effet produit. Alors, revenons peut-être un peu sur cette jeunesse justement. On a vu qu'il est d'un milieu tout à fait modeste, qui ne le prédisposait pas du tout à la peinture. Le rôle du père est essentiel. Vous avez vu le film?
J'ai vu le film, que j'ai beaucoup apprécié, et le rôle du père est tout à fait remarquable. On voit d'ailleurs cette chose assez amusante, que le père devient une sorte d'assistant de son fils, et c'est vraiment lui qui est là pour mettre en valeur la peinture de son fils, la présenter justement aux quelques visiteurs qui ont accès à la galerie et à l'atelier. Et c'est vrai que le rôle est très fusionnel. D'ailleurs, Turner sera extrêmement marqué par la disparition de son père. Son père disparaît en 1829, et c'est un très grand choc pour Turner. C'est vraiment le lien le plus fort qu'il avait, c'était ce lien totalement fusionnel avec son père.
La production de Turner a été telle qu'on a encore la chance de pouvoir en apercevoir quelques vestiges dans des collections privées. Et il est arrivé à des collectionneurs de me dire « Ah, tenez, vous qui aimez Turner, j'ai ça à vous montrer. » Et on est surpris parfois, parce qu'il n'y a pas un Turner, mais des Turner, si je puis dire. C'est une œuvre qui évolue considérablement.
Considérablement.
Dans le temps.
Et c'est un personnage qui est totalement paradoxal, Turner. Il est paradoxal dans sa vie, il est paradoxal dans ses choix, et il est paradoxal dans son œuvre. On pourrait dire, moi j'aime beaucoup la formule, Turner c'est un peintre académique d'avant-garde, ce qui a priori ne correspond pas. Mais c'est vrai, vous en avez très bien parlé. Son admiration pour Sir Joshua Reynolds est quelque chose d'essentiel. Il aime l'enseignement de la Royal Academy. Il est très marqué, évidemment, par tout ce cursus académique. Il aime les peintres du XVIIe siècle. Ça, c'est une chose absolument passionnante, c'est de voir à quel point toute son œuvre est nourrie des exemples aussi bien de la peinture hollandaise que de la peinture française ou italienne du XVIIe. Et il fait d'ailleurs, par moments, soyons francs, à la limite des pastiches de certains tableaux. C'est assez amusant de comparer les deux, d'ailleurs.
Là, on est très proches. Là, on ne le reconnaît pas.
Ah, mais pas du tout. C'est pas le Turner que l'on attend. En même temps, c'est un Turner qui se met en scène et qui prépare le talent à venir qui sera le sien. Et c'est nourri de toute cette culture, puisqu'il faut voir que Turner avait une chose absolument admirable, il avait une mémoire visuelle et une intelligence visuelle absolument hors du commun. Dès qu'il voyait un tableau, il l'enregistrait. Et donc, consciemment ou inconsciemment, il retranscrivait dans certains tableaux des éléments qu'il avait pris dans telle ou telle peinture. Et c'est là aussi où Turner, par moment, alors là je vais mettre un tout petit bémol sur l'enthousiasme que nous avons, Franck et moi-même aujourd'hui face à Turner, c'est que Turner était évidemment le paysage le plus exceptionnel qu'il soit. Par contre, totalement étonnamment, quand il essaye d'introduire la peinture de figure, c'est un peintre assez faible. Il est assez maladroit, le trait devient hésitant, et c'est pas du tout un grand peintre de figure. Par exemple, il s'est essayé à l'imitation de Watteau. Et alors là, c'est une catastrophe totale. Il est très nettement en dessous du talent qui est le talent de Watteau. C'est pas son univers. Son univers, c'est la nature, c'est le paysage, et c'est d'ailleurs ce dans quoi il va évidemment révolutionner la peinture.
Et ça tombe très bien, puisqu'on est dans cette époque naturaliste où les Anglais, notamment, se passionnent pour le paysage. On cite toujours Constable, évidemment, un grand peintre, de grand paysagiste britannique. Mais il y a dans les arts anglais du XVIIIe siècle un goût très fort pour le paysage, puisque même les arrière-fonds de portraits, par exemple, sont toujours avec de belles campagnes, avec des cieux extraordinaires.
C'est une grande caractéristique de la peinture anglaise, c'est l'idée du portrait dans la nature. Alors ça, soyons francs, c'est un héritage de Van Dyck, je le prononce à la française, quand il est venu travailler pour Charles Ier d'Angleterre. Et c'est vrai que c'est lui qui a lancé cette idée du portrait dans le cadre de nature. Mais pour les Anglais, c'était évidemment une adhésion totale. L'association du portrait,
les jardins, c'est pas
le lien était parfait. Et c'est vrai que toute la génération des Gainsborough, Reynolds, vont reprendre ce principe du portrait sur fond paysager. Et c'est aussi une des choses qui est intéressante, c'est un peu, vous en avez parlé Franck, la situation très paradoxale également de la peinture anglaise. C'est une peinture qui devient une grande peinture au 18e. Et c'est vrai que ce qui dans d'autres pays aurait été important, comme la peinture religieuse, la peinture mythologique, la religion en Angleterre avec l'anglicanisme, il n'y a pas vraiment de peinture religieuse. La peinture mythologique, ça a toujours profondément ennuyé les Anglais, donc c'est quelque chose qui n'est pas très présent non plus. Et il y a deux sujets qui s'imposent, le portrait et le paysage, et on peut les synthétiser dans l'idée du portrait sur fond paysager.
Je disais tout à l'heure qu'il s'était inspiré des maîtres du Louvre, il y en a un qui l'a tout particulièrement marqué, et c'est Patrick qui nous le fait remarquer sur la page de l'émission, et qui nous dit il aurait été, dit-on, très influencé par le Lorrain, par Claude Lorrain. Est-ce que c'est vrai ?
C'est sans aucun doute, nous avons un auditeur qui connaît bien la peinture, puisqu'évidemment, c'est la preuve parfaite de la référence absolue. Je dirais que Claude Gelée, qu'on surnommait le Lorrain du fait de ses origines, est vraiment l'artiste par excellence que Turner admire. Alors, il y avait aussi une raison. Claude Gelée est un peintre qui très tôt a plu aux Anglais, ce qui fait qu'il y avait beaucoup, il y a toujours d'ailleurs beaucoup, de tableaux de Claude Gelée dans les collections anglaises, ne serait-ce que la collection de la Reine d'Angleterre, qui est richissime en peinture de Claude Gelée, de même que le British Museum a un fonds de dessins de Claude Gelée tout à fait exceptionnel.
Un français qui exerçait à Rome.
Qui a fait toute sa carrière à Rome. Il est né donc à Chamagne, petite ville de Lorraine, puis il est parti à Rome et il a fait toute sa carrière en Italie, comme Nicolas Poussin, que Turner admirait aussi beaucoup.
Il y a dans le film une scène drôlissime qui se passe dans le salon des parents de Ruskin, justement, et Ruskin se lance dans une charge incroyable contre le Lorrain. Et ça ne plaît pas du tout à Turner.
Pas du tout, Turner est furieux, surtout que le film présente ce Turner âgé. Donc c'est le personnage qui est devenu excentrique, bougon, qui est devenu à la limite un peu misanthrope, d'ailleurs, qui a des liens un peu conflictuels avec
le
son entourage.
Humain, oui.
Et alors, là, on voit un moment où il est très, très agacé, effectivement, parce que c'était un dieu, Claude Gelée. Il ne fallait pas y toucher.
Je sais bien que c'est une petite anecdote, mais quand même, est-ce qu'il grognait comme le fait le comédien?
Alors, d'après les témoignages, absolument. On avait vraiment un personnage qui était devenu cette espèce de d'ours mal léché. Une sorte de sanglier et qui rentrait tout à fait, d'une façon étonnante, dans les règles qui n'étaient pas les règles de la bonne société. Et ça, à la limite, il s'en moquait totalement. On le voit également aussi quand il est au moment des présentations de tableaux à la Royal Academy, justement, où on voit à quel point il est une référence, mais il a aussi des rapports par moments relativement difficiles avec certains de ses confrères.
Alors, évidemment que c'est un peintre de paysages, mais il va donner une histoire à ses paysages. Ça compte d'ailleurs, je pense, beaucoup dans la perception qu'on peut en avoir. Je disais tout à l'heure le lien qu'il établissait avec la littérature, il établit également un lien très fort avec l'histoire. Il peint des scènes historiques. Alors si vous regardez bien, en fait, vous avez un paysage. Mais lui estime que ce paysage est daté et qu'il raconte quelque chose.
Alors, il y a deux choses, effectivement. Alors d'une part, il y a la reprise, encore une fois, de le Lorrain, c'est-à-dire rajouter un sujet. Nous avons par exemple un tableau qui représente Didon surveillant la construction de Carthage. On aura en pendant le déclin de l'Empire carthaginois. Donc là, il reprend ces thématiques historiques. Et puis, il y a aussi chez Turner une chose assez passionnante. Vous en avez parlé, Franck, c'est qu'il est dans ce contexte romantique. Alors également, quand il traite la nature pour elle-même, sans même l'alibi de l'histoire, il aime une nature dramatique. Il aime tout ce qui est dans l'idée d'une nature dans la démesure. Il aime les tempêtes, il aime les naufrages, il aime les avalanches, il aime les cieux tourmentés. Alors ça, c'est très nettement la veine romantique et la veine du départ. Il est marqué par cette nature. Alors c'est ce que l'on appelait à l'époque la tentation du sublime. Pour le paysage, il y avait la nature pour elle-même, je dirais le paysage au sens naturel du terme, et le sublime. Constable, c'est plutôt un peintre du naturel. Turner, au début, c'est un peintre du sublime. Comme par hasard, Turner sera très marqué par les écrits sur la couleur de Goethe. Les écrits sur la couleur de Goethe, qui sont publiés en 1810, vont profondément marquer Turner. Et cette tentation, justement, de donner une valeur expressive à la couleur, c'est ce qui prendra le pas de tout ce qui était les événements surnaturels de la nature.
Oui, je parlais tout à l'heure, je disais un mot de Beethoven, il faut ajouter Goethe.
Ah,
si
important.
On ajoute Turner, on voit qu'il y a là une école extra... Enfin, une école. Il y a là une tendance extrêmement cohérente. Gauguin est très emporté de ce romantisme.
On voit aussi une chose, c'est à quel point les trois pays romantiques d'Europe sont la France pour la peinture, Géricault de la Croix, l'Allemagne évidemment pour la musique, la littérature, et l'Angleterre. L'Angleterre dont Turner est sans aucun doute un représentant. Et c'est vraiment les trois pays forts de la tendance romantique.
On va revenir dans un instant sur un certain nombre des grandes œuvres de Turner, sur l'évolution de son art, sur la technique qu'il utilisait et sur ce qu'il a apporté à l'histoire de l'armée, pour en finir, si je puis dire, avec l'aspect biographique, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à raconter. J'ai dit que c'était un grand voyageur, ça incontestablement. Hein. Oui, enfin, grand voyageur. Un voyageur, en tout cas.
Oui, mais pour l'époque, c'est un grand voyageur. Oui, oui. C'est quelqu'un qui, par exemple, ira par trois fois à Venise. Alors, Venise, c'est le voyage par essence important pour lui. Trois séjours en Italie et trois séjours forcément vénitiens. Venise, c'est la lumière, mais une lumière cause. Particulière. Ouais, c'est une lumière
mouillée.
Qui est complètement. Et ça va complètement le marquer. Donc, voyageur, c'est certain. En petit détail amusant, encore un contraste avec Constable qui ne supportait pas de quitter sa région natale. C'est même amusant. Constable aura des médailles en France, il ne vient jamais les chercher. Parce
des
que l'idée de traverser la Manche pour venir à Paris, c'est impossible pour lui. On lui apportait ses médailles en Angleterre, mais il ne venait pas les chercher. Donc, grande différence entre Constable et Turner. Et puis, le voyageur, donc très important. Et une vie personnelle, on l'a dit, assez originale. Là, pas forcément très sympathique. Sa liaison avec Sarah Dunbey, ouais, voilà, cette femme dont il aura deux filles, dont il ne sait absolument pas.
Ce sont des compagnes, il ne s'est jamais marié.
Jamais, célibataire absolu. Et par contre, très très important, la belle liaison que l'on voit très bien dans le film
avec Madame Bouff.
Alors c'est amusant parce qu'il se faisait appeler Mr. Bouff ou l'amiral Bouff, puisqu'il aimait évidemment, comme tous les Anglais, la marine. Donc il devient un personnage qui joue un rôle. Et c'est vrai qu'ils vivent comme un couple. Là, on est très étonné qu'ils ne se soient pas mariés, parce que là, c'est vraiment une liaison qui dure jusqu'à la mort de Turner. Et cette femme est admirable. Elle s'occupe de lui d'une façon très dévouée. C'est vraiment une compagne au sens plein du terme. C'est vraiment une épouse, mais qui ne l'a jamais été sur un plan légal.
Pour le bichonner, pour s'occuper de lui, elle vient un peu remplacer ce père qui disparaît tardivement et qui était devenu un peu l'agent d'affaires de son fils.
Mais complètement. Et c'est tout à fait un phénomène assez... On a l'impression que Turner a besoin de quelqu'un qui le protège. Il y avait son père. Il y aura par la suite Sophia Caroline Booth, qui sera le remplacement, au bon sens du terme, de ce père qu'il a tant aimé.
Nous faisons de la radio, ça tombe bien. Dans quelques instants, nous allons vous montrer les grandes toiles de Monsieur Turner.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le peintre William Turner est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Vous parliez, Serge Lega, de Venise à l'instant. Il y a un tableau qui est peut-être le plus célèbre de Turner. Un des plus célèbres, c'est le Grand Canal à Venise, bien entendu, qui est, j'allais dire, qui fait école même pas, parce que c'est un tableau incopiable, d'une certaine manière.
Il y a des références, évidemment, on pense forcément au grand paysagiste de Venise, Canaletto. Alors n'oublions pas l'importance aussi de Canaletto, qui a quand même séjourné plusieurs fois en Angleterre, qui est aussi un peintre qui a nourri l'évolution de la peinture anglaise. Mais c'est vrai que le Grand Canal, c'est une vision totalement originale, puisqu'on part de ces tableaux très construits, qui étaient les tableaux des védoutistes vénitiens, mais Turner transcende cela par une lumière qui est une lumière totalement étonnante. Et de temps en temps, d'ailleurs, il n'y a pas chez lui, ça c'est un aspect qui me paraît important, Turner, comme plus tard Monet, sont tout sauf des peintres photographiques. C'est-à-dire qu'on transcende le paysage par la lumière. Quand Turner a fait un très beau tableau représentant le port de Dieppe, c'est un port de Dieppe baigné de lumière d'une façon absolument extraordinaire, ce qui évidemment n'est pas totalement la réalité que l'on peut voir à Dieppe. C'est ça aussi la force de Turner, et c'est ce qui impressionnera entre autres Claude Monet, c'est cette libération qu'il apporte à la couleur.
On voit dans le film les inquiétudes qui étaient les siennes devant la naissance de ce daguerreotype qui va devenir l'appareil photographique et qu'il l'inquiète beaucoup. Il se dit qu'il va mettre tous ses descendants au chômage en quelque sorte.
Et il comprend, et je trouve que la scène est encore une fois admirable dans le film, il voit à quel point la photographie peut être un danger, mais en même temps, pour sa propre peinture, on est dans une démarche totalement différente, puisque vraiment, son travail n'est pas un travail de représentation au sens le plus précis du terme. Il y a toujours la part d'interprétation, ce que la photographie, évidemment, ne peut pas faire.
Je pense à une... C'est pas une toile, d'ailleurs, c'est sur papier, mais cette extraordinaire aquarelle renforcée par... Il y a de la, enfin c'est une eau forte pour être tout à fait précis, qui s'appelle le déluge, et où l'on voit un tout tourbillon, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement sur la toile. Il n'y a pas seulement le jeu sur la lumière qui est extraordinaire, il y a le mouvement qu'on a l'air de percevoir, carrément.
Et ce sens du mouvement, c'est une chose essentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il aimait tant les paysages de mer, les paysages de tempête dont nous parlions précédemment. Il aime ce sens du mouvement. C'est quelque chose qu'il veut capter et c'est aussi ce qui fait la grande originalité de sa peinture. Et c'est un petit peu comme ça qu'il se démarque justement de tous ces tableaux de peinture plus anciennes qui l'ont beaucoup inspiré au départ. Quand il cherche le mouvement, il arrive surtout dans les études de ciel à quelque chose d'une liberté au niveau de la lumière tout à fait extraordinaire. Ruskin, dont on a parlé, disait « Turner peint l'air ». Et ça, voilà, c'est quand même le plus beau compliment.
C'est l'impression qu'on a. C'est cette capacité tout à fait inouïe à saisir l'atmosphère. Ça, c'est inouï, hein, vraiment.
Et c'est la grande leçon de modernité. C'est là où, au fond, Turner annonce toutes les audaces à venir. Bien sûr, l'impressionnisme, on sait à quel point les peintres français doivent beaucoup à Turner, même si certains, par la suite, seront un peu agacés. Ils feront quelques réserves. Monet, entre autres, fera quelques réserves par rapport à l'héritage de Turner. Mais il est évident que c'est une étape capitale en 1870, quand on découvre vraiment Turner en Angleterre, c'est un choc.
Et puis une ouverture vers l'abstraction carrément, puisque les dernières toiles deviennent quasiment abstraites.
Tout à fait.
On a dans le film cette visite de la reine Victoria et du prince Albert de Saxe-Cobourg qui visitent l'exposition, et alors on leur montre des toiles de Turner qui sont, c'est vrai, de moins en moins figuratives. Ça n'est plus qu'une sorte de mouvement de brosse sur la toile comme ça, et la reine s'enfuit presque en courant.
La reine Victoria a détesté la peinture de Turner. Elle avait une formule très élégante. Elle disait de Turner, c'est un fou qu'il faudrait enfermer. Donc c'est très clair, on voit à quel point elle n'aimait pas. Ce qui explique d'ailleurs que c'est totalement étonnant, la collection de la reine d'Angleterre, qui est la plus riche collection privée de peinture au monde, n'a qu'un seul Turner. C'est-à-dire qu'il est quasiment absent de cette collection.
Alors il y a chez Turner de toutes petites toiles, il y en a de grandes, mais la plupart, et c'est intéressant ça, il y a quelque chose de, j'allais dire, de classe moyenne, il y a quelque chose de très british là-dedans. Ce sont des toiles de taille moyenne.
De format moyen.
Format
tout
moyen.
À fait. C'est le format qu'il aime particulièrement, et je pense que ça correspond aussi assez nettement à ce besoin du travail qui reprend les sensations premières qu'il a pu avoir sur le motif. Et évidemment, le très grand format devient un peu difficile. Alors on a quelques toiles de grand format qui sont peut-être entre autres liées à des commandes. Certains de ses mécènes lui ont demandé des tableaux de grand format pour telle ou telle collection. Par contre, lui-même préfère les formats moyens qui correspondent plus à l'esprit qui est le sien.
On va revenir à deux ou trois grands tableaux. Un mot peut-être de sa technique. Comment travaillait-il? Vous dites sur le motif. Déjà, il se promène dans la nature.
Alors,
quand même.
Ça, c'est la grande technique de l'époque. Il a ses carnets, donc il dessine énormément. On a un nombre d'études absolument colossal. Et puis, le travail est un travail qui est un travail de reprise en atelier.
Donc, il n'installe pas son chevalet dans la nature,
on n'est pas encore dans cette notion du travail en plein air au sens moderne du terme. Même si les notions de recherche sont faites sur le motif, tout le travail est fait en atelier. Et là où il est tout à fait étonnant, c'est dans la façon dont la couleur se libère totalement du dessin. C'est vraiment ça qui est important. On disait que Turner fait partie de ce qu'on appelle les peintres du color beginning. C'est-à-dire qu'on commence par la couleur sans l'étape préparatoire du dessin. Ce qui était normalement la démarche traditionnelle à l'époque, on dessine puis on rajoute l'étape de la couleur. Turner fait exactement l'inverse et il libère cette matière picturale d'une façon étonnante. Alors, l'anecdote de l'ongle, petit peu long qu'il aurait gardé pour justement marquer un peu la peinture et donner ce sentiment de matière.
Il avait aussi un sens, comment pourrait-on dire, il savait séduire le spectateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une peinture hermétique. Il sait mettre le nœud rose ou le bonnet bleu ou la tache rouge au bon endroit pour rester aimable et attrayant d'une certaine façon.
Oui, il y a un côté séduisant dans la peinture Turner. La séduction est là, la violence peut être là, mais c'est toujours quelque chose qui est contrôlé. Il y a toujours aussi chez Turner une sorte d'intégration dans la société de son temps. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très important qu'on oublie trop souvent. C'est à quel point Turner est un homme de l'époque de la révolution industrielle et à quel point dans certains tableaux, la preuve justement du contexte qui est le contexte sociétal est important. Par exemple,
il y a des trains, des bateaux à vapeur.
Pour moi, un des tableaux phares, moi je dois dire que c'est presque une des peintures que je préfère, c'est Pluie, Vapeur, Vitesse, qui est tout simplement la représentation d'un chemin de fer jeté à travers la pluie et qui donne ce sentiment de la modernité. C'est la modernité en marche. C'est un tableau qui est de nos jours à la National Gallery de Londres. Celui-là n'est pas à la Tate Britain, mais à la National Gallery de Londres, puisque la base de la collection était d'abord à la National Gallery. Ensuite, il y a eu l'Elle Turner à la Tate Britain. C'est un tableau de 1844. Et alors ça, c'est la leçon d'un homme qui montre le monde moderne en marche. Le chemin de fer, c'est une croyance dans une image du progrès. Et chez Turner, on peut avoir le contraire. C'est-à-dire qu'un autre tableau que je trouve admirable, qui est dans les collections du musée de Philadelphie, c'est l'idée d'un des bateaux de la bataille de Trafalgar.
Extraordinaire.
Qui est conduit
vers...
Une sorte de
vaisseau fantôme.
Ah, c'est extraordinaire. C'est vraiment un bateau qui a été puissant, qui est devenu par la suite un bateau de ligne, de deuxième rang. Et ce bateau est conduit à la casse. Et on voit un petit remorqueur qui tire ce bateau.
À vapeur, avec
à
sa grande cheminée.
Et là, la Turner, sans aucun doute, s'y identifie. D'ailleurs, j'ai retravaillé beaucoup sur ce tableau. C'était la toile favorite de Turner parce qu'il se sentait à ce moment-là en osmose avec le thème. Il se voyait lui-même maintenant un homme reconnu, couvert d'honneur, mais qui est forcément comme tout
désarmé.
Homme, puis sur le déclin. Quand on est à tous les honneurs, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est accepter qu'on va insensiblement aller vers une sorte de remise en cause.
Et c'est vrai que cette toile est fascinante parce qu'on voit d'abord le panache de fumée très sombre et puis le navire lui-même, le remorqueur, et plus on regarde et plus on se rend compte que derrière, de manière presque diaphane, comme en filigrane, on se dit, mais mon Dieu, il est là. Il y avait ce grand vaisseau d'un autre temps qu'on ramène comme ça, comme au cimetière des éléphants, si je puis dire.
C'est tout à fait ça. Vous parliez d'une apparition un peu fantomatique. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment le témoignage d'un monde qui est un monde qui va disparaître et d'un monde qui laisse la place à la modernité.
Il mettait vraiment les doigts, la main, etc. sur la toile, comme
on voit. Oui. Mais d'autres peintres l'ont fait. Ce phénomène, même dans la peinture ancienne, vous parliez de la Renaissance, Titien, déjà, dans ses derniers tableaux, pouvait apporter une touche qui était une touche directement faite avec le doigt. Et Turner a ce sens de la matière qui est vraiment quelque chose qu'il a besoin de triturer. Il a besoin de s'affronter. Et c'est là où il annonce l'abstraction et l'abstraction lyrique. Les grands descendants de Turner, c'est évidemment pas du tout les Mondrian et autres, c'est les peintres comme Kandinsky, les peintres de la libération de la peinture.
Il va donc prendre une retraite assez paisible à Chelsea avec cette Madame Booth dont vous parliez. Il est un petit peu, non seulement sur le déclin, mais un peu relégué vers la fin, comme s'il n'avait plus tout à fait la faveur de l'académie. C'est plus tout à fait la même chose.
La peinture est en train de changer. On a une nouvelle peinture. On a les Préraphaélites, qui sont une peinture aux antipodes de celle de Turner. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que...
Et
Ruskin aime évidemment beaucoup Turner, mais soutient également les Préraphaélites. Petit détail amusant, Ruskin, par contre, est très dur quand il parle
John
de Constable.
Ruskin, c'est ce critique dont on parlait tout à l'heure.
Le grand ami que l'on voit dans le film, vous l'avez dit Franck, et qui est assez virulent contre Constable, et c'est le grand soutien de Turner. Le livre le plus célèbre de Ruskin, Modern Painters, c'est vraiment un hommage à Turner.
Moi je trouve des hommages peut-être involontaires à Turner dans la poésie de Baudelaire également,
oui.
Et jusque sur certaines toiles de Gustave Moreau, mais ça nous aurons l'occasion d'en reparler puisqu'on va bientôt faire une émission sur place au musée Gustave Moreau.
Au musée Gustave Moreau, qui réouvre tout un état qui n'a jamais été ouvert à la visite et que nous allons donc revisiter ensemble.
Je vous conseille donc d'aller voir ce film qui s'appelle tout simplement Mr. Turner. Quand je dis aller le voir, il faut peut-être se dépêcher parce qu'il n'est plus diffusé dans tellement de salles maintenant.
Peu de salles à Paris.
Pas beaucoup de salles avec Timothy Spall qui est absolument extraordinaire dans le film. Alors il n'y a pas beaucoup d'action, il faut le dire, mais si vous aimez la contemplation des beaux couchers de soleil ou des beaux levers de soleil, là vous allez être servi. Et puis je signale d'Olivier Mellet le Turner, l'incendie de la peinture, bien joli titre pour le volume qui lui est consacré dans la collection Découverte Gallimard. Merci beaucoup Serge Legas et donc à très bientôt chez Monsieur Gustave Moreau.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Jean-Baptiste. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et il aimerait connaître les origines du code de la route.
Oui, je vous vois rigoler sous cap. Alors, ce code de la route, il est né évidemment avec les voitures. C'est pas tellement ce que je vais vous dire là est un peu une évidence. Mais il faut vous dire qu'il a un grand ancêtre qui s'appelait, tenez-vous bien, la police du roulage et des messageries. Ça datait du 30 mai 1851 et ça permettait de régler à peu près la circulation sur les grandes voies, circulation à l'époque hippomobile. Mais vous savez, on a tendance, j'en profite pour le souligner, on a tendance à oublier le nombre d'accidents qu'il pouvait y avoir. Quand on lit les petites filles modèles de Madame de Ségur, on le sait, mais le nombre d'accidents, y compris d'accidents mortels qu'il pouvait y avoir du temps de tous ces fiacres, de ces diligences, de ces berlines à cheval. Bon, bref. Donc ça, c'était 1851. Et puis arrive l'automobile. Alors l'automobile, bon, ben, c'est les années 1850. 1890, bien entendu. On n'a pas encore de code en tant que tel, mais il y a déjà un décret sur la circulation automobile en 1899. Alors, on limite la vitesse, parce qu'il ne faut pas non plus que les voitures aillent à des vitesses folles. Donc, on limite la vitesse, je trouve que c'est raisonnable, à 30 km/h en campagne, 20 km/h en agglomération, ça paraît tout à fait bien. C'est à peine plus rapide qu'un vélo avec un bon cycliste, disons. On a d'ailleurs, quand vous avez un véhicule comme ça, une automobile, il vous faut un récépissé de déclaration de mise en circulation, c'est un petit peu l'ancêtre de notre carte grise, ainsi qu'un certificat de capacité à la conduite. Ah, quand on nous dit qu'il n'y avait pas de permis de conduire autrefois, vous voyez qu'il y avait quand même cette espèce de certificat. Alors, c'était facile à acquérir, bien entendu. Le premier code de la route en tant que tel, il ne naît qu'en 1905. Et alors attention, il avait 10 articles, figurez-vous. C'est une initiative privée de Jules Périgaud, qui était président de l'Automobile Club des Vosges, et qui dit que ce serait quand même pas mal. Alors l'Automobile Club de France se penche sur la question et dit oui, c'est pas mal, en effet, on va adopter ce code en 10 articles. Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait que 25 000 automobiles en circulation. Donc évidemment, on n'a pas tellement besoin de code, il faut quand même le dire. On va quand même en ajouter deux grandes règles qui sont l'obligation d'assistance aux victimes d'un accident de la route. Ça, je pense que c'est la moindre des choses, mais c'est bien que ça figure dans le code. Et puis, la priorité à droite qui apparaît quand même très tôt, hein, avant la Première Guerre mondiale. Ça y est, déjà, il y a priorité à droite en cas de croisement litigieux. Il faudra attendre le 27 mai 1921, ça c'est les débuts de la technocratie, ça mériterait une émission à part entière, pour voir apparaître le vrai code de la route qui est mis en application fin 1922. Il sera beaucoup modifié en 1958, puis alors un certain nombre, je ne vais pas vous citer toutes les dates de réforme du code de la route, la dernière grande réforme, elle date de 2000, et alors disons les choses tout à fait honnêtement, quand on a passé son code de la route dans les années, allez je ne dirais, on va dire au tournant des années 90, on trouve que le code de la route d'aujourd'hui est tout simplement impossible.